Ah, en plus, vous m'enregistrez pour les foules.
Voilà.
Bon.
Pour les habits.
En commençant donc par rappeler ce qui justifie la liberté d'enseignement, parce que ça va pas de soi, c'est pas parce qu'il y a le mot liberté qu'il faut qu'on soit intimidé et que toute liberté est bonne à prendre. Ce qui justifie la liberté d'enseignement, c'est d'une part la liberté de choix des familles, qui fut un slogan, mais qui est justifié par un principe fondamental, en tout cas qui est devenu classique dans l'Église, grâce à un évêque allemand qui était un ami de Montalembert, s'appelait Kettler, qui est le principe de subsidiarité. Il est bon de se rappeler ce que c'est que le principe de subsidiarité, qui est vraiment un principe fondamental de la pensée de l'Église. C'est que un pouvoir de niveau hiérarchique supérieur ne doit pas intervenir si le pouvoir de niveau hiérarchique inférieur peut subvenir à ses fins. C'est vraiment fondamental parce que c'est un argument qui permet de penser la complexité de la société faite de corps intermédiaires, faite de communautés, d'initiatives variées, sans que une autorité centrale puisse prétendre tout diriger. Ce qui signifie en clair que la responsabilité de l'éducation est prioritairement celle des familles et secondairement celle de l'État. Que ce sont les familles qui délèguent à l'État une mission qu'ils peuvent donc, puisque c'est une délégation, que les familles peuvent reprendre. Donc, délégation que les familles peuvent reprendre et dont elles ont l'initiative. C'est ce qui va nous permettre de voir, je serai très rapide donc ce soir, mais ce qui va nous permettre de voir que, au fond, sur cette question de la liberté d'enseignement, nous assistons à une longue lutte de la famille et de l'État. À savoir à qui appartient l'enfant, au fond, pour parler en termes simples, et ma conclusion c'est hélas que l'État semble avoir largement gagné dans cette longue lutte à la suite de différents épisodes que je vais rappeler. Comment comprendre que la famille soit prioritaire dans l'éducation de l'enfant? Cela se comprend si on revient sur la distinction classique entre enseigner et éduquer. Si on dit la mission de l'école, c'est d'enseigner, pour enseigner, bien sûr, il faut éduquer. Mais les deux, s'ils ne sont pas séparables, peuvent et doivent être distingués. Or, comme le rappelle Fabrice Adjadj dans l'article numéro 50 du bulletin du Collège supérieur, on enseigne une matière, on éduque un enfant. Donc l'enseignement peut être l'affaire d'un spécialiste, d'un mercenaire. L'éducation est globale. Elle passe par l'infinité des signes de la vie quotidienne, les gestes, la nourriture, les paroles. Alors bien sûr, l'école ne peut pas ignorer cela, parce qu'il faut bien faire asseoir les enfants, les faire taire, leur faire dire bonjour à la dame. Si vraiment l'école a une mission éducative, il n'est pas normal que la famille n'ait pas le choix de l'école. Parce qu'il semble spontanément légitime que la famille ait son mot à dire sur l'éducation au sens de l'apprentissage de tous les signes par l'intermédiaire desquels la conscience se rapporte au monde et aux autres, et à elle-même, et à Dieu. On peut dire, voilà, l'éducation c'est l'apprentissage des signes par lesquels la conscience se rapporte au monde, aux autres, à soi-même et à Dieu. Et on ne peut pas considérer... Pardon ? L'ensemble des signes, l'ensemble des signes par lesquels la conscience se rapporte au monde, ce qu'on appelle la culture, les outils, les mots, aux autres, la morale, la loi, les outils, les mots, à soi-même, ce qui est vraiment la culture, la littérature, la musique, et puis à Dieu, dans la mesure où on peut penser que toute conscience pose la question de Dieu, s'il n'y a pas besoin de le penser, c'est un constat, et que cette question de Dieu passe par l'intermédiaire d'un certain nombre de rites, de récits et de dogmes. Et donc cela engage bien plus que une connaissance qui, elle, au contraire, vous voyez, l'éducation est globale, l'enseignement procède au contraire d'une abstraction. Par exemple, dans l'enseignement, on divise les matières. Abstraire, c'est extraire. Abstraire, c'est diviser. Donc, dans l'enseignement, on sépare physique et chimie, on sépare histoire et géographie, même si on les lit, on sépare littérature et philosophie, même si on les lit. Et on sépare mathématiques et physique. Donc on fait un travail d'abstraction qui est bien nécessaire pour l'exercice de l'intelligence. Parce que c'est vrai que globalement, on est immergé et l'intelligence n'arrive pas à maîtriser ce qui est global. C'est pour ça d'ailleurs que si on ne confiait l'éducation qu'aux familles, on pourrait penser que cette éducation serait totalitaire, parce que justement l'intelligence n'arrive pas à maîtriser ce qui est global. L'intelligence ne peut maîtriser que ce qui est abstrait, c'est-à-dire distinguer, séparer, transformer en une technique. Et donc c'est le rôle de l'école de faire ce travail d'abstraction, qui est un travail d'émancipation, vraiment. Et c'est davantage le rôle de l'éducation, donc, que d'inscrire dans une histoire, dans un récit, dans une culture, dans une morale, dans des rites, etc. Donc on comprend que l'idée de liberté de choix de l'école pour les familles soit légitime. Il est clair que la liberté de choix de l'école supposerait qu'il y ait une diversité des écoles. Sinon, le mot est une plaisanterie. D'où le deuxième principe qui, me semble-t-il, justifie la liberté d'enseignement. Le premier principe, donc, c'est la subsidiarité. Le deuxième, c'est la liberté d'entreprendre. Vu non plus du côté des familles, mais du côté de l'enseignant. C'est-à-dire qu'un enseignant peut proposer des méthodes différentes, des finalités différentes, des spiritualités différentes, et il est souhaitable que cet enseignant puisse exercer comme homme de culture, comme éducateur, une liberté d'initiative et ouvrir des établissements qui correspondent à son inspiration. L'histoire de l'éducation est faite de ça. Vous avez des types qui ouvrent des établissements qui ont telle... Alors, qui veulent des méthodes globales, qui veulent des méthodes semi-globales, qui veulent des méthodes analytiques, qui veulent des méthodes empiriques ou, au contraire... déductive, peu importe, on a pris l'habitude de traiter les enseignants comme s'ils étaient, alors on verra pourquoi, on a pris l'habitude de traiter les enseignants comme s'ils étaient les agents d'exécution au bout d'une chaîne de circulaires qui fait qu'ils sont censés ne pas choisir leur programme, leur méthode, leur classe, leur lieu de travail, etc. Donc on a pris l'habitude de traiter les enseignants comme des exécutants, ce qui quand même contredit l'idée qu'ils peuvent et doivent être des hommes et des femmes de culture, et donc qui ont une liberté d'initiative. Voilà les deux fondements simples de la liberté d'enseignement. Subsidiarité, liberté d'entreprendre, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. La question que chacun se pose, quand on voit d'ailleurs, mais j'ai aucune envie d'insister là-dessus, les insuffisances dramatiques dénoncées dans notre système scolaire, les 200 000 enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme, et qui décroche, comme on dit, parti dans le maelstrom social, quand on constate la montée des violences, etc. Bon, on a l'impression que l'éducation dans notre pays est en difficulté. Un autre symptôme de difficulté qui est moins souvent évoqué, mais moi qui me tient à cœur, certains dans cette pièce peuvent réagir, c'est le sourd discrédit dont souffrent les enseignants. Aux yeux des familles, traités un peu comme des gens potentiellement coupables, et à leurs propres yeux, au fond. Parce que beaucoup d'enseignants ont une image de leur propre fonction qui est assez dévalorisée, donc en proie au doute. Et alors moi je tiens à ce point qui me semble simple, c'est que on ne peut pas bien confier des enfants à des adultes qui ont une image dévalorisée d'eux-mêmes. Vraiment, ça me semble du bon sens. Là, un adulte qui a une image dévalorisée de lui-même aura la peine à donner le goût de grandir, à donner le goût d'être libre, à donner le goût d'oser. C'est pour ça que quand je réfléchis aux questions de liberté d'enseignement, je préfère les réfléchir du côté du professeur que du côté des familles. Bien que les deux soient légitimes. Du côté des familles, on voit en général liberté de choix. Mais personne ne pense, pour qu'il y ait liberté de choix, il faut qu'il y ait choix. Et pour qu'il y ait le choix, il faut qu'il y ait initiative des enseignants. Et pour qu'il y ait initiative des enseignants, il faut que ceux-ci ne s'éprouvent pas eux-mêmes comme des agents d'exécution. Sinon, l'idée même de liberté d'enseignement est ruinée, et il semble bien qu'on en soit là. Alors, dans le titre que j'ai proposé, je suis parti de la question de la carte scolaire, sur laquelle je ne m'appesantirai pas. Parce que cette question de la carte scolaire me sert de prétexte et de point de départ, parce qu'elle est vraiment intéressante. En effet, avec la mesure dite de la carte scolaire, qui signifie donc que les enfants sont censés aller dans l'établissement qui correspond au quadrillage qui est proposé par le rectorat, les familles ont affaire à la plus grande contrainte. L'idée de liberté de choix des familles est anéantie. Et donc l'idée que la responsabilité de l'enfant revienne en priorité aux familles est anéantie. À moins que, comme on le sait, les familles n'essayent de tricher avec des moyens lamentables. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours idéologique ahurissant sur cette affaire, c'est qu'on nous présente la carte scolaire comme une mesure de mixité sociale. Or, tout le monde peut constater comme une évidence que c'est une mesure de ghettoisation. Et que l'enfant se trouve enfermé dans son quartier, dans la population d'où il est issu, par une mesure administrative qui augmente considérablement, tout le monde le sait, les inégalités, donc ce qu'il est convenu d'appeler la ghettoisation, dont d'ailleurs toutes les analyses montrent que la dimension raciale n'est pas absente, elle est même assez déterminante dans les analyses sociologiques qui peuvent être faites sur la question. Or, cette carte scolaire qu'on nous présente comme une mesure de mixité sociale n'a absolument pas été créée pour ça. D'ailleurs, s'il avait été créé pour ça, vraiment, les créateurs seraient des imbéciles. La carte scolaire a été créée pour faire face à la scolarisation de masse en 1963. Parce que l'éducation nationale en France a relevé deux grands défis. Le premier, c'est l'émergence de l'État-nation. Et le deuxième, c'est la massification. Et c'est les deux grands défis auxquels l'éducation nationale a fait face en se constituant comme une administration efficace, une administration de guerre en quelque sorte. Pour faire face à des... C'est l'époque où on construisait, c'était le slogan, et la réalité, un collège par jour. Et le... Donc 1963. Et donc cela est un exemple vraiment parlant de ce que j'ai évoqué au début. Je m'excuse auprès de ceux qui ne l'ont pas entendu, mais je pourrais revenir dessus si vous ne comprenez pas. Donc de ce que j'évoquais au début, qui est la longue lutte de l'État contre les familles. Quand je dis la longue lutte de l'État contre les familles, ça inclut aussi la longue lutte de l'État contre les provinces, contre les églises, contre les familles, c'est-à-dire contre tout ce qui n'est pas l'État. Et ça, c'est le schéma français depuis Louis XIV. La Révolution française a accompli les rêves de Louis XIV. La Troisième République a accompli les rêves de la Révolution française. L'État ne trouve aucun buisson qui permette à l'individu d'échapper à son regard. C'est le rêve de Versailles. Et donc, la carte scolaire, la construction de l'éducation nationale pour répondre à ces deux grands défis que sont la montée de l'État-nation et la massification de la population scolaire se sont constituées donc comme un organisme centralisateur, monopolistique, etc. Cette longue lutte de l'État contre les familles tient à ce que, alors ça, je vais faire un historique superficiel et rapide, tient à ce que l'État, depuis toujours, si l'on peut dire, pour autant que cette formule ait du sens, est tenté d'utiliser l'école pour construire la cité. Est tenté d'utiliser l'école pour se donner ses élites, puis pour se donner sa jeunesse. Et donc constituer un corps social qui est la même mémoire, qui est la même culture, qui est les mêmes codes, pensant que l'unité de l'État-nation passera par ce creuset dont on voit maintenant qu'il est un laminoir, ce creuset qui permet aux diversités de se mélanger et d'avoir une même mémoire, une même culture, un même code, et donc de pouvoir faire corps. Alors je fais un historique que vous m'aiderez à réviser, donc surtout que Gérard m'écoute d'une oreille critique, j'espère. Premier élément de l'historique, c'est nous sommes toujours dans une situation qui a été créée par Napoléon. La grande création de Napoléon, en 1806, c'est l'université, avec un U majuscule. L'université, ce n'est pas un bâtiment, l'université, c'est le corps de l'enseignement conçu comme organisé et centralisé par l'État. Il s'agissait, donc c'est 1806, il s'agit pour Napoléon de créer un corps d'enseignants avec ses grades, son avancement, sa hiérarchie, ses déplacements, avec les deux modèles qui sont ceux des ordres religieux. Il faut savoir que les premiers instituteurs n'avaient pas le droit de se marier. Donc le modèle était vraiment les ordres religieux. Et on a même des textes au 19e qui montrent que la vie sentimentale des instituteurs est surveillée de près. Il y aurait du boulot, sans doute, dans la contemporanéité. Mais le modèle, c'était les ordres religieux. Et pourquoi? Parce que la révolution les avait laminés. Il ne restait plus personne. Donc il ne reste plus personne pour éduquer l'enfance. Le clergé a été exterminé ou dispersé. On va constituer un corps d'État mimétique. C'est la logique de la rivalité mimétique. Et avec en outre donc le modèle de l'armée, qui lui aussi, d'ailleurs, comme les ordres religieux, suppose que les individus peuvent être obéissants et déplacés, soumis à un imperium qui part d'un seul point et arrive au degré extrême de la hiérarchie. Le projet pour Napoléon, c'était bien sûr, avec la création des écoles normales, supérieures, de polytechnique, etc., de contrôler la formation des élites. On se rappelle que c'est l'époque où il n'y avait pas, je sais pas, 2% de bacheliers, je dis n'importe quoi, mais c'est même sûrement en dessous. Quand on voit la manière dont Montalembert raconte son passage du baccalauréat avec, excusez du peu, un entretien avec Victor Cousin et Guizot, bon, c'est pas mal comme condition du baccalauréat. Entretien d'ailleurs fort sympathique, où manifestement d'ailleurs ils l'ont cuisiné, ça devait pas être rien, mais en même temps c'était des gens bien qui se rencontraient, quoi, et qui se recrutaient. Voilà, donc le souci, c'est celui de la formation des élites dans la vie, dans la perspective de constituer donc un grand corps d'État. Les deux éléments fondamentaux de la constitution de ce grand corps d'État sont, premièrement, que pour enseigner, il faut être issu de l'université. Donc, c'est le caractère auto-reproducteur du système, avec l'assurance que personne n'échappera au code et que donc ce corps peut s'engendrer lui-même, il est complètement endogène. Nous en sommes toujours là. Nous en sommes toujours là, c'est-à-dire que pour enseigner, il faut être issu de l'université. Saisissant, ça n'a pas changé d'une ride, ça n'a pas pris une ride depuis 1806. Le deuxième verrou essentiel à la constitution de ce grand corps, c'est le monopole de la collation des grades. C'est-à-dire que toute attribution d'un grade ou d'un titre relève de l'État. Et nulle institution, nul établissement, nulle école ne peut décréter qu'elle attribue un grade. Par exemple, le collège supérieur, je le regrette beaucoup, ne peut pas décider de créer une agrégation. J'aimerais bien, j'en rêve. Ne me regardez pas comme ça, Marie. Et donc voilà, on pourrait dire, tel établissement crée une agrégation. Bonjour monsieur, j'ai l'agrégation du collège supérieur. Oh, vous avez seulement l'agrégation du collège supérieur? Ça ne vaut pas le coup, parce que l'agrégation du Mans est meilleure. J'en rêve. Mais ce n'est pas le cas. Le monopole de la collation des grades n'a pas bougé, n'a pas pris une ride. Il n'a absolument pas été modifié. Malgré quelques ruses qui actuellement font que des établissements vont chercher des diplômes en Europe pour échapper au monopole de la collation des grades. Mais sinon, les deux verrous fondamentaux de l'université napoléonienne, l'autoreproduction du corps et le monopole de la collation des grades, sont restés. Et ça aboutit à un corps qui, par certains côtés, est magnifique, a construit la France avec une grandeur sur laquelle il faudra revenir sans doute, et sur les raisons de cette grandeur aussi, il faudra revenir, mais à l'évidence, une lutte contre les familles, c'est-à-dire l'antériorité de l'État sur les familles. Et l'idée que l'enfant appartient à l'État. Il n'y a qu'à voir la rédaction du catéchisme par Napoléon pour voir que cette idée que l'enfant appartient à l'État était vraiment inscrite dans le programme. Donc vous voyez, quand on illustre tout cela avec des belles pages que je connais bien parce que j'ai écrit sur Peggy, j'aime beaucoup Peggy, des belles pages de Peggy sur les hussards noirs de la République, les hussards noirs de la République, ils sont noirs parce qu'ils copient les curés, et ce sont des hussards parce qu'ils copient les soldats. Et c'est un grand corps de curés et de soldats au service d'un corps concurrentiel ou partenaire du sabre et du goupillon qui est le corps enseignant, qui a pour but de mettre la jeunesse française dans de fondre la jeunesse française, les provinces, interdiction de parler le patois sur la cour, etc., les confessions, les religions, les clergés, de fondre tout cela, donc dans l'unité nationale. Deuxième étape, je parcours tout ça à pas de charge. Deuxième étape, la restauration. Ne change rien. La charte inscrit la liberté d'enseignement, mais surtout les régimes de la restauration, que ce soit la première ou la deuxième restauration, n'y touchent pas. Si ce n'est que, c'est très intéressant à voir, le grand chancelier de l'université, il existe toujours, le grand chancelier de l'université devient Monseigneur Frayssinous. C'est-à-dire que l'Église, c'est la concurrence des corps, donc l'Église dit, il y a un seul corps constitué. Il est vachement bien ce corps, finalement, je mets la main dessus. Que ce soit un général, un évêque ou un ministre, c'est pareil, il y a un seul corps, et je peux considérer que ça devient en quelque sorte l'enseignement de l'Église, mais que ce soit l'enseignement de l'Église ou de l'État, c'est un monopole. Et en 1831 est une date qui m'est chère, puisque vous le savez, Montalembert et Lacordaire, en 1831, créent la première et la seule école libre dans l'histoire de la France. En 1831, Montalembert et Lacordaire, ils ont 20 ans, 22 ans, mettent une affiche, disant « Nous ouvrons une école libre ». Ils arrivent à recruter une quinzaine d'élèves. Ils font des cours pendant une journée et ils attendent les hussards qui ne tardent pas à arriver et les délogent tandis que les enfants à genoux prient obstinément. Et Montalembert, qui était un homme qui avait de la gueule, donc il avait 20 ans à l'époque, je sais pas si vous m'embarquez, je ne devrais pas m'embarquer à raconter ça. Il avait 20 ans à l'époque et son père meurt. Et or, son père était pair de France. Donc Montalembert devient pair de France. Il a donc droit à un procès à la pairie. Ce qui donne une autre allure au procès. Et à la pairie, il prononce un discours flamboyant sur la liberté d'enseignement. Il a 20 ans, il fait pleurer les dames dans les rayons. Et il se présente, Montalembert, pair de France et directeur d'école. Voilà. Mais donc l'épisode est bref et il ne retrouve une nouvelle actualité qu'en 1850, loi Fallou. La loi Fallou qui continue de diriger les FA2LOUX, qui est une loi inspirée par Montalembert, donc qui s'est inscrite dans avant le coup d'État de Napoléon III, et donc qui autorise la création d'écoles sous un certain nombre de conditions de diplôme, sous un certain nombre de conditions d'inspection, entre autres sur l'hygiène et la morale, et qui donc autorise la création d'écoles sans lever vraiment les deux verrous qui sont le monopole de la collation des grades et le système de reproduction. Puisque ne serait-ce que l'inspection, donc Montalembert dit, mais attendez, nous allons être inspectés par nos ennemis. Et il y a des jours où, quand on enseigne l'enseignement libre, on a vraiment cette impression. La loi Fallou est une loi de compromis, une loi de paix scolaire, de paix, qui permet un certain nombre d'avancées et qui va développer considérablement les secteurs de liberté d'enseignement, en particulier sous l'impulsion de grandes congrégations enseignantes, et va rejoindre une bourgeoisie qui à l'époque était largement voltairienne et qui va quand même s'initier quelque peu à la foi chrétienne par l'intermédiaire de ces grandes congrégations. Et alors entre-temps arrive un phénomène plus diffus sur lequel je veux bien revenir si je ne suis pas assez clair, mais je ne sais pas tout, hein. Que c'est de l'histoire, moi je suis seulement philosophe, arrive un phénomène plus diffus qui n'existait pas du temps de Napoléon, qui n'existait pas du temps de Montalembert, qui est le laïcisme. Le laïcisme qui naît à la fin du XIXe siècle et qui va connaître son apogée en 1901 par la loi sur les congrégations. Ce laïcisme fait franchir un pas de plus dans la longue lutte de l'État contre les communautés familiales, religieuses, congréganistes. C'est intéressant de voir que la loi sur les congrégations est connexe à la loi sur la liberté d'association. La grande loi de 1901 qui régit les associations sous lesquelles nous sommes encore tous, y compris quand on collectionne des timbres-poste, c'est la même que celle qui a exclu les congrégations. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Parce que, et là il faut comprendre la logique du laïcisme, les congrégations sont bannies parce qu'elles comportent des vœux. Et celui qui fait des vœux, il échappe à l'État. Alors les vœux sont présentés comme contredisant la liberté de conscience, c'est le raisonnement qu'on continue de tenir pour les sectes. Et donc on dit, c'est contradictoire. Il y a un très beau discours de Gambetta, je ne l'ai pas amené, mais vous le trouverez sur Internet, dans lequel il dit, je ne parle pas de ces gens qui sont soumis à des vœux, dans lesquels il voit un phénomène d'oppression des consciences. Et c'est vrai que les vœux ont pu fonctionner comme oppression des consciences, là, très large, ils fonctionnent encore parfois comme ça. Mais surtout, le grand enjeu, quand on lit Rousseau, quand on lit tous les prédécesseurs, c'est que quelqu'un qui a fait des vœux échappe à l'État. Du coup, le deuxième argument, c'est que les congrégations, c'est le parti de l'étranger. La haine des jésuites, on s'explique mal la haine des jésuites. On se dit, mais pourquoi on leur en veut aux jésuites? Bon, longtemps, je me suis demandé pourquoi le 17e, le 18e, le 19e ont fait suer ces pauvres jésuites. Mais parce que les jésuites, c'est le parti de l'étranger. C'est l'œil de Rome. Un jésuite n'est pas un bon citoyen. Quelqu'un qui a prêté un serment n'est pas un bon citoyen. C'est une question, un catholique est-il un bon citoyen? Non, parce qu'il a deux téléphones. Un à Rome, un à Paris. Il faut qu'on coupe le téléphone de Rome si on veut être assuré qu'il est un bon citoyen et qu'il rentre dans le creuset national. Bon, je ne vais pas faire de l'histoire avec vous, vous êtes plus fort que moi, mais je vais quand même vous lire un texte inouï de Paul Bert. Vous savez tous qui est Paul Bert, donc un des papes de la laïcité. Paul Bert était député de Lyon et le Vendredi Saint, il offrait des banquets à ses électeurs. Et Paul Bert offrait une layette à tous les enfants non baptisés. C'était un homme de conviction. Et donc un des plus ardents pourfendeurs des congrégations, de la liberté d'enseignement, etc. Or, j'ai dégoté un discours inouï de Paul Bert, alors inaugurant, ou c'est une distribution des prix, je ne me rappelle plus, il faudrait que je relise l'ensemble du livre, l'école alsacienne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'école alsacienne à Paris. L'école alsacienne, c'est des Alsaciens, comme leur nom l'indique, chassés par la guerre de 70, protestants, qui installent à Paris une école pour garder mémoire de leur attache alsacienne, dans un esprit patriotique aussi, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous nous resterons français, dans une culture protestante. 1871-72, le texte de Paul Bert date de 1880, Est-ce que j'ai la date exacte? Je n'ai pas la date exacte. Bon, mais il date de cette époque-là. Et je vous lis le discours de Paul Bert qui fait l'éloge de la liberté d'enseignement. Pourvu que ça ne soit pas celle des catholiques. Et c'est très intéressant de voir Paul Bert à l'école alsacienne faire l'éloge de la liberté d'enseignement. Et on voit bien que toutes les mesures, en fait, tendant à juguler cette liberté, avaient pour enjeu la lutte de l'État et de l'Église. Je lis ce texte qui est quand même extraordinaire. Oui, vous avez fait œuvre. Alors, il faudrait que j'arrive à le lire avec le ton de l'époque. Oui, vous avez fait œuvre de pédagogue. Et avec quelle utilité, quelle efficacité? Ah, l'université, qu'inventes-tu, a besoin d'établissements semblables aux vôtres. Vous n'êtes pas des concurrents voulant disputer l'âme de la France. Vous n'êtes pas des spéculateurs attirant et séduisant la jeunesse et les mères par de beaux ombrages. Vous êtes des auxiliaires de l'université, faisant pour elle des expériences qu'elle ne peut et peut-être ne doit pas tenter elle-même. Formidable ce texte. Au professeur de l'école alsacienne. Ce texte est à mettre sous verre. Je continue. L'université, toujours avec un grand U. L'université est comparable à un vaisseau de haut bord portant sous pavillon tricolore l'avenir et l'honneur de la patrie. Quand il s'agit de manœuvrer parmi les hauts fonds et les récifs des méthodes nouvelles, elle ne saurait s'aventurer. Car elle tire beaucoup d'eau et la responsabilité du commandant est trop grande. Elle a besoin de bateaux pilotes légers et calants peu, qui peuvent aller partout, tâtant et jetant la sonde, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le chenal navigable où peut s'engager la grande nef. J'ai pas trouvé un éloge meilleur de la liberté d'enseignement. Lieu d'expérimentation, lieu d'aventure, les grandes institutions ne peuvent pas se permettre d'expérimenter, vous pouvez vous permettre d'expérimenter, etc. Je continue. Cet hommage, je suis heureux de vous le rendre comme homme public d'abord, puis comme membre et comme défenseur de l'enseignement de l'État. Oui, vous êtes un établissement d'enseignement véritablement libre. Vous êtes de ceux si rares dont je vois avec qui fournissaient un actif au bilan de cette loi funeste de 1850, dont le passif formidable se résume en un mot. Séparation en deux camps hostiles de la jeunesse française, entre parenthèses, applaudissements. Oui, vous étiez de ceux dont le souvenir et l'exemple gênaient et retenaient dans l'expression complète de leurs pensées les hommes publics qui s'écriaient dans des discussions récentes « La liberté d'enseignement, elle n'a produit en politique que la discorde, en pédagogie que l'abaissement des études ». Car bien au contraire, de ceux qui s'efforcent d'un effort qui serait criminel s'il était conscient de couper la France en deux, vous avez voulu rejoindre les deux moitiés de cette France séparées par une opération sanglante. Au lendemain de nos désastres, vous avez voulu recueillir les enfants qu'avait chassé l'orage, donc les Alsaciens, offrir un nid à ceux qui chantaient jadis sur le rameau brisé. Vous voyez l'analogie glissante? On sépare deux jeunesses, et de la même manière que on sépare deux jeunesses, les Allemands ont séparé l'Alsace et la Lorraine. Vous avez franchi la séparation de l'Alsace et de la Lorraine et vous franchissez la séparation des deux jeunesses car vous êtes vraiment un enseignement libre. À la différence, alors il y a un autre passage, vous êtes vraiment un enseignement libre à la différence de ceux qui oppriment les consciences sous l'obéissance, sous la férule de l'obéissance, etc. Superbe texte qui montre bien que l'enjeu du laïcisme n'est pas négligeable dans cette histoire. Passons, 1959, date clé, loi de Bré. La loi de Bré qui, théoriquement, continue de valoir, est promulguée dans un esprit d'apaisement, et puis, parce que commence à se dessiner l'effort de la scolarisation de masse, à laquelle il faut bien que toutes les bonnes volontés soient engagées, et donc c'est ce qui conduit à la formulation de cette loi, présentée par un discours admirable de Michel Debré, qui... Alors, la loi de Bray porte sur deux points fondamentaux. Premièrement, la notion de caractère propre, qui était dans la bouche de Gaulle, qui a été dans la bouche de Bray, qui n'est pas proprement parlé dans le texte de loi, mais qui est dans les discours et dans le discours de Debré, et qui justifie donc l'originalité, la reconnaissance d'une initiative, d'une spiritualité, d'une pédagogie, que sais-je, caractère propre. Et c'est au nom de ce caractère propre que, encore maintenant, un certain nombre d'actions sont entreprises au titre de la liberté d'enseignement. Et puis la deuxième notion fondamentale, c'est celle de besoin scolaire reconnu. Besoin scolaire reconnu, qui était la notion la plus opératoire de la loi, qui revient à dire que lorsque la population scolaire est trop importante, on crée une classe. Et donc si l'établissement Sainte-Ménéhulde a trop d'élèves, eh bien il crée une classe. S'il a trop d'élèves en seconde, il crée une classe de seconde. S'il a trop d'élèves en sixième, il crée une classe en sixième. C'est la notion de besoin scolaire reconnu. J'ai géré une école pendant un certain nombre d'années. C'est l'école, c'est la notion qui marchait très bien et qui permettait de dire nous avons atteint le seuil de 90 élèves pour un niveau de classe. Il nous faut donc dédoubler. Alors on nous essuyait, nous disait oui, pour... mais bon, à 90 élèves quand même, on dédouble. Bon, peu de bon sens, quelquefois même dans l'administration. Et deux notions fondamentales, caractère propre, besoin scolaire reconnu. Je veux quand même... il s'agit, j'insiste, parce que c'est vraiment... Je vous demande d'être attentif, parce que c'est vraiment l'essentiel à mon avis. Les établissements libres. L'interlocuteur, c'est l'établissement. Les établissements libres, en retour, en fonction de leurs besoins scolaires reconnus et, de leur caractère propre, sont reconnus comme participant à la mission de l'enseignement public. Et participant à la mission de l'enseignement public, ils sont tenus de suivre les mêmes programmes, les mêmes horaires, les mêmes niveaux de qualification. Pour les établissements libres, majoritairement catholiques, ça a été un grand progrès. Parce que ça a considérablement amélioré le niveau de diplôme des enseignants. Moi, j'ai été élève dans un établissement libre catholique avant la loi de Bray, évidemment, parce que je suis né très jeune, mais il y a longtemps. Les professeurs étaient des gens dévoués, mais vraiment pas très compétents. Alors maintenant, ils sont peut-être pas très compétents et pas très dévoués, mais en tout cas, ils ont le diplôme. Et puis, avec ces programmes, ces horaires et ces diplômes, est assorti aussi, vu la reconnaissance que les établissements libres participent à la mission d'enseignement, l'obligation d'accueillir toute population. C'est-à-dire que un établissement catholique ne demande plus le certificat de baptême pour les élèves. Il a obligation, et cette obligation est bienheureuse. Pour un catholique que je suis, je trouve cette obligation bienheureuse parce qu'elle oblige justement à tenir un discours ouvert sur l'universel. C'est ce qui empêche la fermeture sur le communautarisme. À partir du moment où je suis conduit à avoir un établissement d'une qualité suffisante pour être accueillant à tous les élèves, il faut bien que je tienne un discours rationnel et je ne peux pas me contenter de quelques vociférations dogmatiques. Or, dans son discours, allez le lire sur Internet, il est vraiment superbe ce discours. Ça donne quand même une sacrée nostalgie. Alors d'abord, Debré dit que c'est à juste titre que l'on peut voir reconnu la participation à la mission de service public de l'enseignement libre, car pendant l'occupation, il a gagné ses lettres de noblesse. Ce qui est toujours bon à rappeler. Parce que pendant l'occupation, les professeurs juifs n'avaient pas le droit d'enseigner. Et chacun sait que les établissements catholiques ont accueilli des professeurs juifs, ont accueilli des élèves juifs, et Debré donc dit, ces gens ont gagné leur lettre de noblesse dans la République. Donc on ne voit pas pourquoi on va aller encore les mettre de côté, etc. Mais Debré alerte sur ce qu'il appelle deux chimères. Écoutez bien, c'est très intéressant. Enfin, écoutez bien, je suis naïf. La première chimère, ce qu'il appelle l'intégration. On passera rapidement dessus, c'est-à-dire, il dit, il y a des gens qui rêvent encore de l'intégration, d'un enseignement laïque, unifié, etc. C'est une chimère. Deuxième chimère, j'ouvre les guillemets et je donne le texte complet. Écoutez bien. Deuxième chimère, une sorte d'université nationale concurrente que l'État accepterait de considérer dans son unité, avec laquelle il traiterait, sinon d'égal à égal, en tout cas comme avec un vaste corps intermédiaire auquel il serait reconnu par une délégation implicite, une responsabilité partielle mais nationale dans la mission générale de l'enseignement. Waouh ! Je répète, car vous allez reconnaître, ceux qui connaissent bien la situation, un certain nombre de choses. Deuxième chimère, impensable, dit Debré. Excluons ça. Écoutez bien, je le relis. Une sorte d'université nationale concurrente que l'État accepterait de considérer dans son unité, c'est-à-dire par exemple l'enseignement catholique, avec laquelle il traiterait, sinon d'égal à égal, en tout cas comme avec un vaste corps intermédiaire, auquel il serait reconnu par une délégation implicite, une responsabilité partielle, mais nationale, dans la mission générale de l'enseignement. C'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Arrivent les étapes suivantes. Mais c'est intéressant de voir que Debré avait prévu ça. Et qu'au moment de la loi Falloux, Veuillot, qui était opposé à la loi Falloux pour des très mauvaises raisons, a cependant formulé un bon diagnostic. Il a dit à Montalembert, qu'il estimait mais qu'il haïssait en même temps, « Vous n'avez fait que créer un monopole partagé. » Et alors c'était de mauvaise foi, par rapport à Montalembert surtout, par rapport à la loi Falloux, mais parce que Montalembert, par exemple, je peux revenir dessus tant que vous voulez, parce qu'au moment... Bon, je reviendrai dessus après, parce que sinon je vais semer la pagaille. Je continue mon historique. 1959, reconnaissance de la liberté d'enseignement comme service public. Ce qui correspond au salaire des professeurs et à la prise en charge d'un certain nombre de frais de fonctionnement. C'est marrant, si l'on peut dire, ça correspond, coïncidence, avec la grande crise de langueur de l'Église post-conciliaire. Exode des ordres religieux. Du coup, ces établissements où, tout d'un coup, les religieux ont été remplacés par des laïcs, de manière prompte, d'une part du fait de la loi Debré, d'autre part du fait de l'exode des religieux, se sont trouvés devant une crise d'identité pour beaucoup d'entre eux, disant, mais au fond, qu'est-ce qui fait notre esprit? Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui fait notre caractère propre? D'autant plus que ces enseignants arrivant et remplaçant des religieux ne veulent surtout pas être traités comme des religieux, de la même manière que les infirmières remplaçant les bonnes sœurs ne veulent surtout pas être traitées comme des bonnes sœurs. Donc ils ne veulent pas du tout faire des heures sup, les religieuses étaient là, ils vivaient sur place. Ils ne restaient pas 26 heures, comme le réclame un candidat, ils vivaient sur place. Ils faisaient vraiment de l'établissement une maison, puisqu'ils y étaient. Et les laïcs arrivant à juste titre n'ont pas voulu être assimilés aux religieux, n'ont pas voulu en partager l'esprit, ni ce qu'on appelle le dévouement. Une des conséquences les plus qui a passé inaperçue, mais qui est globale, c'est que le caractère propre, dans l'immense majorité de l'établissement, est passé à la périphérie de l'établissement. Catéchèse de la périphérie, machin à la périphérie, dessin, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que le caractère propre n'était plus le cœur de l'établissement, mais une proposition surérogatoire et marginale. Or, on le sait bien dans toutes les institutions et a fortiori dans l'école, tout ce qui se marginalise se discrédite. Donc, la formation religieuse, par exemple, j'ai le seul honneur de ma vie, c'est que je me suis battu dans mon établissement pour que ça n'ait pas lieu. J'ai fait une chose de ma vie. Un des rares combats que j'ai gagné. Mais sinon, dans l'immense majorité des établissements, tout ce qui correspond au caractère propre s'est trouvé écrémé à la périphérie. D'où une espèce de dévigment intérieur de la vocation même des établissements, qui du coup ne se justifie plus que par des revendications élitistes. Arrivent d'autres épisodes bien plus passionnants. Vous êtes prêts ? Le feuilleton continue. 1973, c'est une date clé. 1973, vous pouvez le graver sur votre chair et mettre du sel tous les matins. Création du Comité national de l'enseignement catholique. Debré a perdu. Création du Comité national de l'enseignement catholique qui, peu à peu, va réclamer du pouvoir. Pouvoir de nommer, pouvoir de déplacer, pouvoir de négocier, etc. On comprend que cette création répond sans doute, a sans doute voulu répondre à ce que j'ai appelé une crise d'identité. C'est-à-dire que devant des établissements qui mettaient des tables de ping-pong dans les chapelles, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que cet établissement reste catholique ? Là, on va dire, eh bien, il faut que l'Église reprenne ça en main. Ce qui est vraiment le mauvais réflexe. Et l'Église a repris ça en main sous la forme administrative en créant le Comité national de l'enseignement catholique. C'est très intéressant de voir des crises convergentes comme la tectonique des plaques, en quelque sorte, arriver et puis provoquer des cataclysmes qui passent inaperçus. Et est enclenché donc le processus, à partir de 1973, de ce qu'il faut bien appeler la mise sous tutelle des établissements catholiques. La loi Debré, j'ai insisté, ne connaît que les établissements. Le contrat est pris, non pas avec l'enseignement catholique, mais avec l'établissement. C'est si vrai que quand un chef d'établissement s'en va, il ferme l'établissement, et quand le suivant arrive, il l'ouvre. Donc la loi Debré ne connaît et la loi ne connaît vraiment que l'établissement. Et ça, c'est légitime, parce que en reconnaissant l'établissement, on reconnaît la liberté d'initiative, la liberté d'entreprendre, ce que j'évoquais au début. À partir du moment où c'est un organisme centralisé, ecclésial, qui organise, négocie, compose la carte, on retrouve une carte scolaire, car le Comité national de l'enseignement catholique rêve des cartes scolaires. La spécificité même des établissements est remise en cause. Là-dessus, l'histoire continue. Des plus en plus difficiles comme dans Tintin. 1984, grand projet de François Mitterrand, un grand service unifié, laïque, sans expropriation et sans spoliation. Il s'ensuit la plus grande manifestation de l'histoire de France. Mitterrand recule, cette manifestation se fait au nom de la liberté de choix de l'école. Le slogan, c'était « Liberté de choix de l'école ». Il y a d'ailleurs des tas de discussions en disant « Mais comment sait-il que les évêques ne soient pas là ?» Donc il y a des gens qui disent « Mais il faudrait que les évêques soient là, qu'il faudrait qu'ils soient à la tête de la manifestation. » Comme si justement il était question de défendre l'enseignement de l'Église. Et la grande ambiguïté de 1984, c'était « Est-ce la défense de l'enseignement de l'Église ou est-ce la défense de la liberté d'enseignement ?» Si ça avait été la défense de l'Église, qui ne savait. En tout cas, donc, cette ambiguïté a été prolongée par toutes les attitudes du Comité national de l'enseignement catholique. La loi Savary est retirée. 1985 est aussitôt appliquée par Chevènement. Sitôt retiré, sitôt appliqué. Et en 1985, Chevènement crée deux choses fondamentales. C'est, premièrement, les crédits limitatifs. Crédits limitatifs, cela veut dire que il n'y a pas de création d'école en dehors d'un schéma prévisionnel. Ça veut donc dire que les établissements libres rentrent maintenant dans la carte des schémas prévisionnels. J'évoquais tout à l'heure l'établissement qui dit « Nous avons 90 élèves, nous voulons ouvrir une deuxième classe. » On lui dira « Non, vous ne pouvez pas ouvrir une deuxième classe parce que pendant ce temps-là, l'établissement machin est en train d'en fermer une. » Et alors, c'est encore plus vrai quand si c'est un établissement libre qui veut ouvrir une deuxième classe et que c'est un établissement public qui en ferme une. Et donc la réticulation du schéma fait que on instaure des territoires et des masses, etc., auxquels le Comité national de l'enseignement catholique va participer. Et il va dire bah oui, discutons. Donc on va se répartir le territoire scolaire selon une logique centralisatrice administrative. Qu'une administration soit préfectorale ou épiscopale, elle est aussi aveugle et aussi stupide. Alors c'est de là que sort, je voudrais qu'un historien arrive à nous trouver la première occurrence, c'est là que sort ce fameux chiffre magique de 20%. Tout d'un coup on décrète que les subventions allouées à l'enseignement libre n'excéderont pas 20%. Ce qu'on comprend dans une logique budgétaire de l'État qui dit « Bon, attends, moi je fais mes additions, je prévois, etc. » Mais ce qui fait que toute possibilité d'ouverture, de croissance, de développement est bridée. C'est un chiffre sorti de la cervelle cérébrale de M. Chevènement, qui est féconde, voilà. Donc, première mesure de Chevènement, crédit limitatif, on est encore là-dedans, et ces crédits limitatifs, évidemment, comme ils sont limités, vont faire l'objet d'âpres négociations, et rend les établissements concurrents les uns avec les autres, de manière féroce, pour avoir quelques morceaux de l'enveloppe. Deuxième mesure de Chevènement, la loi de Bray faisait que le professeur était nommé par le chef d'établissement et que cette nomination était avalisée par le recteur. Chevènement pour que les enseignants gagnent en sécurité de l'emploi, dit-il, change cette disposition et instaure la nomination de l'enseignant par le recteur après avis du chef d'établissement. Donc l'initiative change de camp. Et le statut du professeur change de camp. Ça, c'est 1985. 1992, c'est le tremblement de terre, c'est les accords Clopet-Lang. Les fatals accords Clopet-Lang. Accords Clopet-Lang qui ont pour issue de créer, Debré l'a complètement perdu, vous voyez, de créer un concours de recrutement pour l'enseignement catholique. C'est une aberration. Et ce qui revient à considérer l'enseignement catholique comme un État dans l'État. Et c'est là que cléricalisme et anticléricalisme s'entendent comme la ronce en foire. Parce que pour le clérical comme pour l'anticlérical, au fond, l'Église est un État dans l'État. Donc ils sont d'accord, ils partagent le gâteau. Et les accords Clopé-Langue donc traitent l'enseignant comme l'enseignement public, c'est-à-dire dit, ben, vous avez réussi votre CAPES, vous aurez comme premier poste Montbrison, vous passerez par un système de commission, où vous serez en concurrence avec Madame Machin qui a 3 enfants, où les critères donc pédagogiques, spirituels, etc. n'entrent absolument pas en compte, et on rentre dans une meule de commission. Commission en russe, ça se dit soviète, et cette meule de commission produit les mêmes résultats que partout, c'est-à-dire que il y a une promotion à l'ancienneté, la possibilité pour le chef d'établissement de recruter ses collaborateurs est quasiment éteinte. C'en est donc fini de la liberté d'enseignement, puisque le point fondamental de la liberté d'enseignement, c'est pour, alors, once more, dans un établissement, quelqu'un qui prend une initiative, qui recrute des collaborateurs. Si l'unité n'est plus établissement, si il n'y a plus de pôle d'initiative pédagogique ou autre, si ce n'est périphérique, à la marge, et s'il n'y a pas de possibilité de recruter des collaborateurs, alors, il n'y a plus de liberté d'enseignement. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que arrive la conséquence extraordinaire que ces établissements qui sont traités de manière identique sous le filet de la carte scolaire n'existe plus que en fonction d'une concurrence sur les résultats. Et le premier critère devient le critère sociologique. J'avoue que mon cœur de professeur, mais je rigole pas, saigne à chaque fois que j'entends dire « Oh, c'est un bon établissement ». Et quand par bon établissement, on n'entend pas un établissement où il y a des bons professeurs, mais un établissement où il y a de bons élèves. Quelle honte! J'arrive pas à y penser sans colère. Et pour des raisons purement sociologiques. Et c'est vrai de l'enseignement public comme de l'enseignement libre. C'est le règne de l'argument sociologique. Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à aller dans un... J'ai mes enfants qui sont dans l'enseignement public. Ils cherchent à aller dans un bon établissement. Et qu'est-ce qu'ils appellent un bon établissement? C'est pas un établissement où il y a un bon chef d'établissement, c'est un établissement où il y a de bons élèves. Et le mécanisme de reproduction est reparti à 200 à l'heure. Et c'est pour ça que je dis que de ce fait, le creuset républicain est vraiment devenu un laminoir. Enfin, dernier acte, puisque vous croyez que le crépuscule est fini, non, il reste encore le coucher de soleil complet. Le dernier acte, 2004, loi Censi, ça s'écrit C-E-N-S-I. La loi Censi qui a pour but d'aménager quelques dispositions concernant la retraite des enseignants de l'enseignement libre, prononce alors que l'employeur de l'enseignant est le rectorat et non pas le chef d'établissement. Pendant des décennies, l'ambiguïté a été maintenue. Je me rappelle une fois, quand j'ai acheté mon appartement, je me suis dit, tiens, je vais faire un emprunt 1% auprès de mon employeur. Alors, je pouvais faire un emprunt auprès de mon employeur si c'était le rectorat qui faisait un emprunt 1%. Le rectorat m'a dit, c'est pas vous, c'est pas moi l'employeur. Je dis, je me retourne vers l'établissement et qui me dit, ah, ce n'est pas moi l'employeur. Et donc, je n'avais pas d'employeur. Bon, avec le père Pierrot, on s'est arrangé. C'est la loi Censi qui définit que l'employeur est le rectorat. Si bien qu'un professeur dans un établissement dit libre est quelqu'un qui reconnaît pour seule autorité hiérarchique l'inspecteur. Quand Quand la seule autorité hiérarchique est l'inspecteur, quelle est la fonction du chef d'établissement? Fournir les moyens. Et on n'attend plus du chef d'établissement qu'il fournisse les moyens. La photocopieuse et d'autres choses, mais non plus qu'il inspire et a fortiori. Alors c'est pour ça que d'ailleurs que les quelques remarques de Sarkozy sont intéressantes quand il évoque la possibilité d'évaluer l'enseignant, bon, par le chef d'établissement, alors là ça fait un peu. Quand il évoque le fait que les enseignants pourraient rester un peu plus pour être disponibles à leurs élèves pendant 26 heures, ça veut dire qu'il a une certaine image ou que ses collaborateurs ont une certaine image de l'enseignement, mais qui rentre en contradiction absolue avec la roue logique qui s'est déployée depuis 1959. Voilà. Je conclurai là-dessus. Ce qui fait que le tableau, si on est parti de ce qui justifie la liberté d'enseignement, le principe de subsidiarité, le principe de libre entreprise, par une logique historique très caractéristique de l'État centralisateur français, la longue lutte de l'État contre les autres communautés a été peu à peu emportée par l'État avec la complicité de ceux qui auraient pu résister autrement à ces dispositions. La conséquence, c'est qu'il y a actuellement 450 écoles hors contrat en France qui vivent dans des conditions assez misérables et précaires, mais qui finalement deviennent ce que Paul Bert évoquait, c'est-à-dire des lieux d'expérimentation. Qui vivent dans des conditions passablement difficiles, et puis il n'est pas sûr que ce soit vraiment un modèle pérenne, un modèle qu'on puisse complètement proposer. Alors après, il y a toutes les réflexions autour de l'autonomie de l'établissement, mais alors si vous parlez d'autonomie de l'établissement, on dit, mais attendez, si les établissements sont autonomes, alors s'ils sont autonomes, ils sont libres, ben oui. S'ils sont libres, ils sont concurrentiels, eh ben oui, alors, horreur. Et vouloir la liberté sans vouloir la concurrence, c'est ne rien vouloir. L'opinion publique la refuse. L'idée même. Alors, dès qu'on parle de concurrence des établissements, alors que de fait, il y en a une. Féroce. Et d'autant plus féroce qu'elle est occulte. Mais dès qu'on parle de mise en concurrence d'établissements, on vous répond deux choses. On vous répond d'abord qu'on va transformer l'enseignement en un produit marchand, ce qui est censé être une honte. La deuxième chose, qu'on va ouvrir la porte à des politiques démagogiques. Ce qui vraiment est ne pas connaître les familles. Parce que je ne pense pas, si les établissements sont concurrents, que les familles vont mettre aveuglément leurs enfants dans les établissements où il y aurait une démagogie et des enseignements faibles. Ce qu'il y a de juste dans la thèse libérale, c'est que la vérité a tout à gagner à la concurrence, et qu'il n'y a pas de liberté sans concurrence. Mais vous voyez, par exemple, ça supposerait de rompre. Il n'est pas normal qu'un enseignant ne puisse pas choisir l'établissement où il enseigne. Enfin, quand même, c'est une grande personne. À la rigueur, qu'on dise d'un militaire qui ne choisit pas son affectation, on comprend, parce que l'armée ne marche que par une discipline stricte. Mais qu'un enseignant, qui est un homme de culture, qui est une grande personne, normalement, qui a un peu d'autonomie, qui a un peu de chuchote, ne puisse pas choisir l'établissement dans lequel il va enseigner, ça se justifie par quoi? Exclusivement par la perte de la sécurité et l'image que l'on a d'un État tutélaire et central.
C'est pourquoi on oblige les enseignants à aller en banlieue parisienne, parce que personne ne va y aller.
Alors, à cela deux réponses. Des parents pauvres, il y en a. Et on ne peut vraiment pas dire que le système centralisé et monopolistique ait établi l'égalité. Il a vraiment fait le contraire. Et la deuxième chose, c'est que dans une perspective de libre création, ça c'est la main invisible des libéraux, en quelque sorte, le territoire sera mieux couvert, ou sera couvert autrement, que par une décision centralisée. Vous voyez la carte de la Suède ? Avec le Chili, c'est fait une géographie un peu particulière, la Suède. Eh bien, la Suède, qui est un des pays où la liberté d'enseignement est la plus grande, où vous pouvez ouvrir une école comme ça, vous dites « j'ouvre une école », est le pays où le réseau scolaire est le plus homogène. Pourquoi ? Parce que si j'ouvre une école, je ne vais pas aller l'ouvrir là où il y en a plein, je vais aller en ouvrir une là où j'ai l'impression de rendre un service. Ou là où je pourrais développer la vocation qui est la mienne, ou et au lieu d'avoir des établissements qui sont censés faire la même chose de Tourcoing à Perpignan et de Brest à Strasbourg, on aurait des établissements qui auraient un certain style. Parce que ce qui justifie tout ça, c'est que ce qui est éducatif, c'est un établissement qui est porteur d'une unité, qui est porteur d'un esprit. Ces enseignants qui n'ont pas choisi leur établissement, qui n'ont pas choisi leur méthode pédagogique, qui n'ont pas choisi leur programme, qui enseignent avec des proviseurs qui n'ont pas choisi leur établissement, qui d'ailleurs, lesquels proviseurs n'ont pas choisi leur professeur, comment voulez-vous qu'ils arrivent à faire corps ? Or, ce qu'il y a d'admirable, c'est que, cependant, ils y arrivent parfois. Ça, c'est magnifique.
Il y a une conversion. Parce que, les établissements sont plus attractifs que d'autres. Donc, il y aura des établissements où personne ne voudra aller. Une fois que les choses sont en place, personne ne voudra aller. D'autre part, je pense que les gens, on a une capacité de conversion. C'est-à-dire, quelquefois, un enseignant qui n'a pas pu aller là où il voulait aller, se trouve dans un établissement où il découvre que dans cet établissement, il peut faire des choses et que les rencontres sont...
S'il y découvre quelque chose, la condition, c'est qu'il y découvre quelque chose. Et pour qu'il y découvre quelque chose... Voilà.
Je veux dire, à partir du moment où il a des intentions nobles, c'est-à-dire, effectivement, de réaliser une mission, je pense que dans l'établissement où il sera, où il n'a pas voulu aller, il va pouvoir...
Il peut découvrir.
Et puis aussi contribuer à transformer l'établissement.
Oui, il est quand même plus simple de faire confiance dans la liberté des hommes et de penser que puisqu'ils ont le sens de cette mission et de ce service, ils peuvent aller le rendre là où ils ont l'impression qu'ils seront utiles, ou là où ils ont l'impression qu'ils n'auront pas affaire à une concurrence trop forte. Moi je suis bien, d'ailleurs tout montre. L'Europe du Nord est un régime de grande liberté. Au Danemark, en Suède, en Hollande, vous avez une liberté scolaire totale. Ça ne nuit à personne, c'est même plutôt bon pour le niveau scolaire. C'est bon pour l'esprit des établissements, pour leur unité, pour leur fécondité. Et pour la liberté de choix des familles. On me dit, on n'aime pas la liberté, on n'aime pas la liberté. J'entends trop souvent dire, si les enseignants peuvent choisir où ils vont, ils iront tous dans le sud. Mais non, c'est actuellement qu'ils vont tous dans le sud. Puisque la seule différence entre les établissements, c'est le soleil. Donc actuellement, ils font tout pour aller dans le sud. Si au contraire on me dit qu'à Tourcoing il y a un enseignant spécialisé dans une philosophie de qualité, j'y vais.
Ce sera
un établissement qui aura son identité. Mais je ne vois pas du tout pourquoi ça choquerait de dire vous pensez que votre enfant a plutôt des dispositions pour la philosophie, si vous pensez qu'il a plutôt des dispositions pour les langues, si vous pensez qu'il a plutôt des dispositions pour... ou si vous souhaitez qu'il ait plutôt des dispositions pour la technologie ou qu'il ait plutôt... etc. Mais c'est bien comme ça que marche la liberté d'enseignement. Pour le peu qu'elle marche, c'est bien comme ça qu'elle marche. Mais on ne fait pas confiance. Ce que je déteste dans ces trucs, c'est qu'on ne fait pas confiance à la liberté. On pense que les familles sont mesquines et que les professeurs sont crétins. Alors évidemment, si c'est le cas, il faut les enrégimenter.
Il reste que, je vais voir les candidatures, vous avez des établissements, tous les profs vont
être. Actuellement ?
Oui, mais alors, quelle transition faut-il faire pour que ce soit plus clair ?
Alors après, ça dépend parce que vous avez, dans les exemples que vous donnez, il y a justement des réponses intéressantes. Mais je pense que ce qui capte les enseignants, c'est le sentiment qu'ils peuvent remplir leur mission dans les conditions qu'ils souhaitent, avec les spécificités qui sont les leurs, avec la spécialité qui peut être la leur. Et donc actuellement, si on est obligé de procéder de manière autoritaire pour des enseignants qui sinon voudraient tous aller dans le même établissement, c'est précisément parce que la prétendue uniformité des établissements est un énorme mensonge que tout le monde connaît.
Bien sûr. Là, la proximité, j'aurais peut-être plus, c'est-à-dire que, contrairement à l'audience, voilà. Avec moi, parce qu'on veut tel établissement, mais si tout concerne...
Alors, une des étapes de transition... Le mot commence à arriver en France après avoir été honni, alors que le premier à l'avoir prononcé était Guy Mollet, ministre socialiste. C'est Guy Mollet en 1956 qui pour la première fois a parlé du ticket scolaire. Et les pays, il y a un certain nombre d'États des États-Unis dans lesquels le ticket scolaire est appliqué, et à la grande stupéfaction de tous les observateurs, le ticket scolaire augmente la mixité sociale. Parce que quand vous laissez les gens choisir, ben ils ne se trompent pas. C'est la même chose d'ailleurs pour le logement social, si on laissait les gens choisir. Au lieu de leur dire, il y a cet immeuble de logement social, tu iras dans un immeuble de logement social. On aura beau mixer les logements sociaux, ça restera aussi atroce. Et du coup, les gens refusent d'aller dans cet immeuble parce que c'est du logement social. Si on les laissait libres, si on leur disait, au lieu de te fournir ton logement, je te fournis le ticket qui te permet de te loger, ils choisiraient leur logement. Si au lieu de leur fournir leur établissement, on leur disait, je te fournis le ticket qui permet d'éduquer tes enfants, ils choisiraient. Donc, vous me dites quelles sont les étapes. Moi, je crois qu'il y en a deux décisives. Alors, après, c'est des questions politiques. C'est augmenter l'autonomie des établissements, ça commence à se dire. Ce qui passe forcément par changer le statut du chef d'établissement, de manière peut-être invisible au début. Et deuxièmement, alors on n'y arrivera pas vite, mais je crois qu'on sera obligé d'y arriver, le fameux voucher, le ticket scolaire.
Troisième, bon choix.
Et le troisième ?
Un bon chef d'établissement.
Ah ben, s'il est mauvais, il coule la boîte. Mais c'est le cas. Hein. C'est le cas.
Il y a aussi un problème chez les familles. Je ne sais pas si ça tient à la situation actuelle, mais il y a beaucoup de familles qui choisissent de bons établissements et qui sont de vrais esclaves. C'est-à-dire qu'ils ne mettront rien en cause dans l'établissement parce que ils sont inhibés par rapport à l'établissement. Si bien qu'il se passe un certain nombre de choses qui ne devraient pas être critiquées.
Ah, mais personne ne gagne à ce système. y compris les établissements gonflés d'orgueil et d'humeur aqueuse, dans lesquels effectivement les capacités d'initiative et de dialogue sont limitées parce que chacun est dans une situation d'oppression secrète.
Des familles qui n'osent pas intervenir, qui ne veulent pas parce que pensent qu'ils sont coupables. C'est établissement qui est bon, si eux ne sont pas satisfaits, c'est eux qui posent un problème pour leur enfant. Donc l'enfant est une victime. Des cas comme ça, il y en a beaucoup.
Vous dites qu'on a peur de la liberté, que c'est pour ça qu'on vient par ici. Peut-être que c'est vous aussi qui sous-estimez la capacité d'un enseignant être de culture, être qui a l'envie d'être utile et. D'accomplir une mission, à s'adapter. Parce que, justement, malgré les déplacements des enseignants comme des pions sur la carte des rectorats, etc., un enseignant qui arrive dans un établissement, de la plupart du temps, il arrive à faire son métier, il arrive à... Et peut-être que finalement, c'est plus riche que si on avait un professeur à Tourcoing qui prenait une certaine philosophie, et bien tous ceux qui... Tous ceux qui adhéraient à cette philosophie se rassembleraient autour de lui. Ben non, là, on a des enseignements, des établissements avec des enseignants qui sont réellement différents les uns des autres. De fait, ils ne se sont pas choisis. Ils sont là par un espèce de jeu d'une grande roue hasardeuse. Mais du coup, ils sont côte à côte et les élèves ont face à eux des enseignants qui sont réellement différents et qui, du coup, leur donnent des modèles d'adultes réellement différents.
Alors, deux réponses. La première, je suis loin de sous-estimer les capacités des enseignants, puisque je suis au contraire en admiration, je l'ai dit trop vite, devant le fait que ça marche quand même. C'est-à-dire que ce que j'ai vu dans tout mon métier, par exemple, chaque fois que je faisais passer le bac, des gens d'une conscience professionnelle incroyable, d'une application, d'un souci de bien faire extraordinaire. Donc ce système, quand il marche bien, marche grâce aux hommes. Pas grâce au système, mais grâce aux hommes. Et donc on ferait mieux d'en prendre acte et de dire, finalement, appuyons-nous davantage sur les hommes. Le deuxième aspect de votre question est plus délicat. Ça pose une question qui n'est pas facile, c'est celle de l'unité, de l'homogénéité de l'esprit d'un établissement. Vous avez raison quand vous dites il y a une pluralité des formes d'esprit qui est bonne pour l'enfant. Et un excès d'homogénéité l'homogénéité peut engendrer comme disait monsieur, des esclaves ou des esprits conformistes ou des castes. Mais la chose est délicate. Parce que l'hétérogénéité n'est pas bien bonne non plus pour la croissance de la liberté. Et c'est le gros problème des familles, des écoles, de tous les éducateurs, que celui du bon dosage, de l'homogénéité et de l'hétérogénéité. Il n'est pas évident ce problème. J'ai aucune recette pour le résoudre. Ce que je vois, c'est que un corps enseignant qui parlerait de voix trop discordante crée des scepticismes au fond. Ou est en danger de créer des scepticismes, ou une pensée un peu découragée, une pensée relativiste, disant finalement il faut tout pour faire un monde. Il me semble qu'une intelligence a l'appétit de la vérité quand elle est appelée par un esprit, par une unité. Ça ne veut pas dire que l'élève adhérera à cette unité, mais ça veut dire qu'il aura pris le goût de la vérité parce qu'il aura rencontré une certaine unité d'esprit. Mais la question n'est pas facile. C'est-à-dire la question, c'est celle de la diversité des établissements ou de la diversité dans l'établissement. Là, je prétends pas répondre de manière... Je me défausse pas, mais c'est vrai, la question est difficile. Alors pour le coup, ça renvoie à la responsabilité du, du recrutement, c'est-à-dire que c'est au chef d'établissement de faire sa palette. Et effectivement, vous avez des établissements qui sont construits comme des blocos, en disant, on va avoir une seule idéologie, et puis vous avez des établissements dans lesquels le chef d'établissement arriverait à composer une palette, mais encore faut-il que cette palette ait une unité.
Et donc on n'est pas non plus dans un libre choix de l'enseignant, enfin, l'enseignant, je ne dirais pas librement dans son établissement, puisqu'il est recruté quand même.
Ah bah c'est bien un libre choix d'être recruté. Je trouve insensé qu'il n'y ait pas d'acte de recrutement. C'est insensé. C'est le seul métier dans lequel il n'y a pas d'acte de recrutement. Ah ben, si le chef d'établissement n'est lui-même là que pour faire carrière et se considère lui-même comme un prestataire de moyens, il ne pourra pas faire un acte de recrutement. Il ne peut faire un acte de recrutement que s'il se considère comme celui qui a la responsabilité de l'inspiration de l'établissement. Et le point fondamental, c'est l'acte de recrutement. Et cet acte, il est libre, c'est-à-dire que je peux... C'est pour ça que les accords Kloupe et Lange sont vraiment terribles. Je prends un exemple concret, moi. j'ai pas choisi l'enseignement catholique. J'ai choisi d'aller enseigner chez les maristes. Et en plus, j'ai été recruté sur le trottoir. J'ai croisé le père Perrault qui m'a dit « Oh, on m'a parlé de vous, vous devriez venir enseigner chez moi l'année prochaine. Hein » Mais j'ai pas...
C'est vrai que c'est un exemple qu'on peut ériger en...
Non.
En modèle. Et surtout en possibilité pour chacun.
Oui. Dans la mesure où n'existerait plus, parce qu'à l'époque n'existait pas ces fatales Comité national d'enseignement catholique, ces fatales directions diocésaines de l'enseignement catholique, ces fatales commissions d'emploi, etc. Je suis rentré chez les maristes à un moment où il y avait une toute petite faille dans le système. Donc j'ai réussi en même temps le CAPES et l'agrégation, par hasard. Pour l'agrégation, j'étais muté lycée Ampère. Pour le CAPES, j'étais muté... pour l'agrégation, j'étais muté lycée Dupart. Pour le CAPES, j'étais muté lycée Ampère. J'ai fait ma rentrée chez maristes. Alors les téléphones ont chauffé, ni où est-ce qu'il est. À l'époque, il y avait du mou. Maintenant... Ah oui. Pour les remplacements, pour les remplacements, c'est dans les dernières dispositions qui ont été l'occasion d'une levée de bouclier, qu'il y a une certaine souplesse théoriquement pour les remplacements. Mais
vous parlez
pour
l'enseignement
libre
ou pour l'enseignement?
Bah, les deux.
L'enseignement public, il suffit d'avoir une licence et d'être inscrit sur la liste électorale.
Voilà.
Une licence de n'importe quoi.
Voilà.
Pour enseigner une matière. Donc, et on n'avait pas une licence en lien avec la matière.
Oui. Ah oui. Mais ici, on y est pratiquement. Alors après, on dépend de la politique de la direction diocésaine et de choses comme ça. Mais quand on dépend du hasard des passe-droits, c'est que le système n'est pas bon.
Et du coup, là, vous avez quand même bien dans le sens des propositions de Sarkozy.
Plutôt, oui. Je ne sais pas quels moyens il a de les faire avancer. Parce qu'on a l'impression que le ministre de l'Éducation nationale a des boutons sur son bureau, mais qu'il n'y a pas de fil. Parce que 1 500 000 personnes, ça ne se gère pas comme ça. On disait fut un temps que c'était aussi gros que l'armée chinoise. Donc il y a un immobilisme, ce qui est catastrophique, c'est l'impossibilité d'introduire la moindre réforme, même de bon sens. Sans que aussitôt on balance les gosses dans la rue, qu'il y ait les syndicats, etc., qui interviennent. Donc moi je trouve que par exemple la proposition pour les enseignants de rester 26 heures, je trouve qu'elle est pas mal.
Oui. Dans les 26 heures.
Voilà.
Largement.
D'heure présence. D'heure présence.
Ça dépend pas en prépa, pas. Mais... Mmh.
Et ça dépend qui. Oui. La proposition que, alors je ne connais pas les variantes des possibilités, mais que le chef d'établissement puisse participer à l'évaluation de l'enseignant, ça me semble aussi du bon sens. Dans la mesure où c'est le chef d'établissement.
Mais oui. Mais la liberté des établissements me semblerait assez féconde aussi du point de vue des programmes et une certaine souplesse, pas tellement dans les programmes, mais dans le refus d'éparpiller les matières.
Dans les horaires.
Les horaires. Faire des choix fondamentaux pour en revenir à certaines matières et pas s'avancer dans.
On peut très bien concevoir qu'un établissement soit libre de l'organisation de ses horaires. Et ça heurte des habitudes napoléoniennes, quoi. C'est pour ça que j'ai commencé par Napoléon.
Les UFM, le langage, c'est hallucinant. Je passais un cours de l'UFM, on ne comprend même pas les intitulés des questions. Enfin, c'est le seul concours où on ne comprend pas les questions. Je me dis qu'on est tellement dans une.
Mais et les UFM appartiennent bien à ce que j'ai défini comme la caractéristique de l'école napoléonienne, c'est-à-dire ne peut être enseignant que celui qui appartient au système de formation de l'université. Donc c'est complètement endogène.
C'est la libéralisation par l'aval, des gens en amont.
D'ailleurs, les UFM sont revenus dans l'université.
Oui.
Ils n'ont jamais été très éloignés, mais ils sont maintenant admis complètement à l'université.
Pour les jeunes.
Je suis sûre, mais là, il y a beaucoup regardé du côté de l'enseignement.
J'ai parlé de la question de la liberté d'enseignement. Il aurait fallu que je traite, mais c'est un autre exposé, la question de la liberté d'enseignement en elle-même. Mais pour l'instant, les seul modèle que l'on ait de proposition de liberté d'enseignement, ça a été la longue querelle dite de l'enseignement libre, qu'il faut soigneusement distinguer de la question de l'enseignement catholique. C'est pour ça que Montalembert, je reviens à lui, au moment des négociations de la loi Falloux, le tiers avait tellement peur des instituteurs communistes qu'il voulait confier l'organisation de tout l'enseignement à l'Église. Et Montalembert a refusé en disant « On ne veut pas la liberté pour les catholiques, on veut la liberté pour tous. » C'est-à-dire que des gens puissent ouvrir un établissement sur une base religieuse, sur une base pédagogique, sur une base disciplinaire. Pourquoi pas idéologique ? On me dit « Monsieur, il y a le risque du communautarisme. » Oui. Si ce n'est que à partir du moment où ces établissements sont ouverts et existent dans un contexte de concurrence, s'ils sont communautaristes, ils seront mauvais, ils n'auront personne. Quelqu'un peut dire moi j'enseigne que la terre est plate, ben enseigne que la terre est plate, t'auras personne. Oui, mais s'ils veulent être reconnus comme des établissements de qualité, pour l'instant, moi j'ai deux anciens élèves qui enseignent, l'un dans un établissement juif, l'autre dans un établissement musulman, ils me disent que c'est un merdier intégral. Et que c'est vraiment pas de qualité. Donc à partir du moment où c'est pas de qualité, le jour où ça sera de qualité, j'y mets mes enfants. Il y a des tas de musulmans, de non-croyants qui mettent leurs enfants dans l'établissement catholique parce qu'ils y reconnaissent une qualité.
Mais tout le monde, vous avez une masse, non, ils ont toujours des clients,
on ne sait pas. On n'aime pas la liberté, on n'aime pas. On se méfie de la liberté. Donc on est dans une situation annoncée par Veuillot de monopole partagé.
Ben oui, complètement.
Mais depuis tout à l'heure, vous parliez de, en tant qu'enseignant dans l'enseignement libre, toutes les contraintes que j'ai dans l'enseignement libre. Mais là, vous n'avez quand même pas pris vraiment le temps de penser comment on fait un enseignement libre dans l'éducation publique.
Ben si, puisque ça comporte autonomie d'établissement, liberté de créer une école. En attendant, on est dans le système D, mais qui est un système atroce. Moi, je reviens sur ce que je dis quand les gens disent c'est un bon établissement. C'est atroce comme remarque. C'est vraiment un constat d'échec, mais incroyable.
Comment ça marche aujourd'hui? Je pose la question parce que je ne connais pas du tout. De l'intérieur, quand vous dites le professeur, quel que soit l'école enseignement libre ou public, son seul employeur, c'est le rectorat. Quand il prend une initiative dans son cours, intervenant ou aborder tel ou tel problématique de telle ou telle manière, n'importe quoi.
Actuellement, en théorie, ça serait l'inspecteur.
Il peut faire ce qu'il veut tant qu'il n'est pas contrôlé.
Il peut ne pas avoir d'inspecteur. En réalité, c'est le chef
d'établissement. Dans la pratique, par inertie, par mémoire du passé, c'est le chef d'établissement. Mais.
Le chef d'établissement peut alerter l'inspecteur. Sinon, ça veut dire qu'il
assume.
Il y aurait, Marie, il y aurait beaucoup à penser à la question, effectivement, de la formation des enseignants sous la forme de l'inspection. Moi, j'ai enseigné 43 ans, j'ai été inspecté une fois. Et donc, j'aurais pu devenir, ce qui est peut-être le cas, complètement glaireux. Peut-être me l'avez-vous déjà dit, mais j'ai pas compris puisque je le suis. Que ça n'aurait rien changé, j'aurais gardé ma fonction.
C'est pour ça que le chef d'établissement a un rôle.
Eh oui.
On peut passer entre les mots de
dans ce cas. Eh oui.
Vous devez voir personne.
Ils ont peur de votre nom, c'est tout.
Non, mais ça, c'est à cause de la guéguerre entre le public et.
C'est pas une guéguerre, c'est une guerre.
Oui, voilà, c'est une guerre. Pardon. Donc, les inspecteurs doivent avoir peur de se faire caillasser quand ils ont.
Non.
C'est qu'il n'y en a pas assez.
Non.
C'est qu'il n'y en a pas assez.
Non, ils sont plutôt. La majorité des inspecteurs sont plutôt bienveillants à l'égard des établissements libres. Non, il y en a quelques-uns qui sont sectaires, mais pas tant que ça. Allez, bonne soirée. Merci.